Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes et bienvenue pour ce 45e épisode. On reçoit un ancien top 40 au micro aujourd'hui. Il s'agit de la mobilette sur un court de tennis, Marc Jiquel. On est dans la continuité logique avec notre invité du 43e épisode, le français Greg Barrère. Puisque Marco l'entraîne aujourd'hui au sein de la All-In Tennis Academy. Marc nous parle de paternité avec ses deux enfants qui jouent, et notamment son fils qui rêve de prendre la relève de son padré. On revient sur son arrivée tardive dans les 100 à 29 ans, à travers un parcours atypique pour celui qui ne rechignait pas devant les soirées étudiantes, pour quand même affronter les plus grands joueurs de la planète quelques années plus tard. On évoque sa fraîcheur mentale de l'époque, sa prépa physique, on parle aussi coaching évidemment, et Marco revient pour nous sur quelques bons craquages, sur et en dehors du cours. C'est un épisode en deux parties, parce que plus c'est long et plus ça fait plaisir. Alors bonne régalade et bonne écoute à tous.
Marco, t'es né le 30 mars 77 à Tunis.
C'est ça.
S'il y a des infos qui sont fausses, tu n'hésites pas à me rectifier.
Pas de problème.
Tu mesures 1m88 pour 75 kilos.
Oh, ah. C'est faux. J'aurais bien aimé mesurer 1m88. Non, je suis à 1m79. Ça a été mis sur le site de l'ATP. Et je leur ai envoyé un message pour qu'ils corrigent et ça n'a jamais été fait. Donc, sur certains tournois, ça a été repris et j'étais un peu ridicule. Tu
as été joueur de tennis professionnel entre 1999 et 2014 ?
Non, ce n'est pas 1999, c'est plus tard parce qu'ils m'ont mis 1999 parce qu'il y avait à l'époque des circuits satellites. Il y en avait un chez mes parents à Saint-Brieuc, une étape, et mais je l'ai joué. Quoi. Donc, tu vois, mais c'est le seul circuit que je faisais. Et je me suis lancé donc en j'avais 22 non je me suis non plutôt deux ans en 2001.
D'accord.
2001 okay. Ouais, deux ans après.
Tu commences ce sport à l'âge de 7 ans avec tes parents à l'ATG, l'amicale de tennis du Griffon.
Là, Ploufragan. Non, il y a eu juste un club avant si parce que c'est quand même important, ça a été l'ASPTT Saint-Brieuc.
Ok.
Et après, je suis allé, oui, à l'âge de 12 ans, à peu près 12-13 ans, je suis allé à l'ATG Saint-Brieuc. Ouais. C'est là où il y a le Challenger, en fait, en mars.
Ton père était prof de sciences physiques.
C'est ça.
Ta maman, je ne sais pas.
Mais... Prof de PS.
Ah, très bien. Tu as une grande sœur. Tu es donc, même si tu es né à Tunis, tu es breton. Tu as fait tes études jusqu'à 24 ans. Tu voulais devenir prof de sport.
Ouais, je faisais des études de STAPS, ouais, à l'INSEP. Ouais, pardon, je faisais ça parce que je ne savais pas quoi faire, en fait. J'avais ma mère en prof de PS, mon oncle, ma tante, prof de PS. Donc, j'étais parti là-dessus.
Ouais. T'es arrivé sur le tard parce que t'es rentré top 100 à 29 ans, ce qu'on t'a souvent accordé comme un avantage en termes de fraîcheur mentale.
C'est ça, ouais. En fait, j'ai arrêté mes études donc, entre 24 et 25 et je suis parti m'entraîner à la Fédé à cet âge-là. Ouais, j'ai commencé assez tard, c'est sûr. C'est sûr, et je suis rentré dans les 100 5 ans après. Juste la petite réflexion, la remarque que je peux faire, c'est que j'ai commencé tard, mais j'avais un niveau de mon niveau de base était quand même bon. Hein. J'ai gagné deux fois le crit, j'étais première série, j'étais moins 30, parce que certains disent, voilà, je vais commencer tard en me prenant pour référence, mais certains sont de 6, 3, 6, 1, 6, et donc on n'a pas forcément le niveau pour se lancer sur le circuit. Moi, je l'avais, quoi. C'est que je ne voulais pas partir, je ne voulais pas voyager, si tu veux. Quand j'avais 20 ans, je ne voulais pas partir à l'autre bout du monde toutes les semaines. Je n'avais pas cette envie-là, j'étais étudiant. Je faisais mes tournois sur la côte bretonne, normande, Pays de Loire. Et puis, j'avais les soirées étudiantes, les soirées kinés. J'avais mon train de vie me convenait très, très bien. Quoi. Et c'est pour ça, et à 24-25 ans, je me suis dit, bon, allez, parce que souvent, on me disait, mais pourquoi tu n'y vas pas? Et ben, je disais que je n'étais pas motivé. Et c'est entre 24 et 25 ans où j'ai voulu me lancer pour ne pas avoir de regrets, voir jusqu'où je pouvais aller.
C'est top parce que quelque part, tu as vécu les deux. Quoi. T'as vécu,
Exactement, j'ai aucun regret sur mes choix de carrière. Quoi. Il y en a plein qui me disent, mais si tu avais commencé plus tôt, tu aurais fait peut-être une meilleure carrière. Moi, je les reprends, je leur dis, justement, si j'étais parti plus tôt à 19-20 ans sans la motivation, ça se trouve un an ou deux ans après, j'aurais arrêté et j'aurais continué mes études et j'aurais pas fait la carrière que j'ai pu avoir.
Ta surface préférée est le dur intérieur. Tu considères que ta principale arme est d'abord le physique, puis ton service et ton courage. Tu as été 37e joueur mondial à ton meilleur en 2008. Tu as joué 205 matchs sur le circuit pour 92 victoires et 113 défaites.
Peut-être, je ne savais pas compter ça.
Tu as atteint le 3e tour de tous les tournois du Grand Chelem et fait un 8e à l'US en 2006. En 2005, tu gagnes le Challenger de Grenoble en battant Simon, Assion, Santoro et Elvis. C'est plutôt propre. Aussi Ferrer, ton premier top 20 à Lyon.
À Lyon, ouais.
L'année d'après, tu fais finale au même tournoi en battant Grosjean en quart et Malice en demi.
En demi, et je perds sur Gasquet au final.
Yes, tu termines l'année 2006 avec un gros US en t'envoyant deux anciens vainqueurs de Roland sur les deux premiers tours, avec Ferrero 18e et Gaudio 24e. Et tu t'offres même une night session de folie contre Roger, futur vainqueur.
J'ai pas pris la night session, j'étais prévu. J'étais prévu le mardi soir, deuxième après 19h, et il a plu toute la journée, toute la soirée, et ça a été reporté le lendemain en journée. Et j'ai joué Rodic sur le Arthur H en night session, mais Federer, ouais, ça a été le mercredi après-midi en journée. Ouais. Mais ça reste un super souvenir.
C'était pas l'année où Roger avait sa tenue toute noire, là ?
Putain, non, moi je l'ai joué, il avait une tenue. Oui, peut-être le soir, quand il joue en night session, mais moi quand je l'ai joué en journée, il avait une tenue bleue. Je me rappelle, moi j'avais une tenue rouge avec une petite bande noire, et lui il était tout bleu.
Ok. En 2007, première victoire sur un top 10, toujours à Lyon. Sur ouais, Tommy Robredo.
Robredo, 9e, ouais.
En 2008, tu bats Gasquet, alors numéro 9, à Hertogenbosch. Tu perds en finale à Chennai contre Marcos Baghdatis.
À Hertogenbosch, déjà, je perds en finale sur Ferrer. Et ouais. À Chennai, je fais finale en double avec Baghdatis.
Tu bats d'ailleurs ton record de prize money cette année-là, en 2015, avec 515 000 dollars. Honorable. En 2010, tu te blesses salement à une jambe, ce qui te fait sortir des 100. Roland et Wim 2011. C'est deux fois lucky loser et réintègre le top 100 avant de faire le yo-yo au classement jusqu'en 2014. Tu as aussi plutôt bien joué en double en ayant été 38e et remporté 4 titres. Washington en 2008, Brisbane et en Montpellier en 2013 avec Mikael Jodra en devenant la 8e paire française à s'imposer dans ce tournoi depuis 87. Tu es pour le PSG, tu adores a priori Grey's Anatomy.
Non, ça c'était sur Facebook, non ?
Non, c'était sur ta bio ATP.
Ah ouais, moi, mais non, Grey's Anatomy, j'aime pas plus que ça.
Ok. T'as un fils qui s'appelle Noah, qui a déjà 14 ans, et une fille qui s'appelle Léa.
Et Noah, il est classé ouais. 15 ans, juste pour. Il est classé 15 ans, et ma fille Léa, elle a eu 8 ans fin décembre, et elle est 33.
Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais t'étais ambassadeur à l'Open de Quimper depuis 2014.
Je suis en fait. Donc j'ai différents titres, je suis directeur. Sportif à Rennes, je suis co-directeur à Quimper, maintenant c'est ma fonction, c'est mon nom, c'est mon rôle, et je suis ambassadeur à Saint-Brieuc.
Aujourd'hui, tu coaches à la All-In Tennis Academy montée par Thierry Assion, qui a par ailleurs été ton coach à l'époque d'un moment de ta carrière de joueur.
Oui.
Tu as déjà accompagné Mahut, Manarino, et actuellement tu es avec Greg Barrère.
Ouais, je fais des semaines aussi avec Gasquet, avec Richard.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ta carrière de joueur ? Peut-être quelque chose qu'on a oublié d'un peu essentiel ?
Non, t'as fait le tour, hein, c'est ça.
Jusqu'à quel âge t'es resté au Maroc, du coup ? Tunisie, pardon.
Tunisie. En fait, je suis parti, j'avais 2 ans. Mes parents sont partis travailler là-bas. Et donc, je suis né là-bas. Et à 2 ans, ils sont revenus travailler et s'installer en Bretagne. Quoi. Aucun souvenir Non, juste la petite histoire, c'est qu'il y a un tournoi Challenger à Tunis et je suis né dans une maternité à 200-300 mètres du club. Quoi. Donc, je suis passé voir où je suis né, tout simplement.
Ok. Est-ce que tu te souviens le premier jour où tu as pris une raquette ? Est-ce que tu as ressenti ?
Je ne me souviens pas du premier jour. Après, je me souviens, comme j'ai dit, c'était mes parents m'avaient emmené avec eux parce que je jouais à un niveau assez modeste et ils me faisaient taper des balles. Et je joue aussi avec le mur. Et puis, moi, je me souviens peut-être de mon premier match. C'était contre une fille. Et on jouait avec des balles en mousse. Et j'avais perdu. J'avais perdu.
Ouais, ça arrive. Quelle est ton évolution, du coup, au niveau des classements ?
Des classements, ça a été... Nous, en fait, à l'époque, le premier classement qu'on pouvait avoir, c'était à 12 ans. Donc, c'était en Benjamin 2. Après, on parle maintenant en moins de 12, un truc comme ça. C'était en Benjamin 2, soit t'étais 30, soit t'étais 32, j'étais 32. Après, j'ai fait 32, 15, 4, 15, 4, 15, 2, 15, 2, 5, 6, 5, 6, 1, 6, 1, 6, moins 4. Après, je suis peut-être resté à moins 4 et après, je suis monté à moins 30. Première série avec le crit, je suis redescendu promo, re-première série avec le crit. Et puis après, je suis parti sur le circuit et après, j'ai été jusqu'à, je crois que je ne me trompe pas, classement français, c'est numéro 7 français, je crois.
Un traditionnel rappel, parce qu'on a tendance à oublier, mettez-nous un like tout de suite, ça sera fait. Et ça nous aide à faire connaître le contenu qu'on publie. Mettez aussi un commentaire, peu importe la plateforme où vous êtes, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous avez aussi accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché la bagatelle de 12 top 100. Et je dois vous dire que ça fait plaisir.
Ton père t'emmenait sur les tournois ou comment tu le débrouillais?
Ouais, c'est mon père qui... de toute façon, j'avais pas le choix. C'était pour quand t'es jeune, quand t'as 12, 13, 14, 15, 16 ans... T'as pas de moyen de te véhiculer et puis ouais, c'est lui qui m'emmenait. C'est, je pense, un peu comme tous les jeunes, peut-être un peu moins maintenant parce que je sais qu'il y a les ligues, tout ça, qui prennent en charge les meilleurs jeunes et qui peuvent aller avec leurs entraîneurs. Moi, à l'époque, c'était j'ai voyagé qu'avec mon père surtout.
Tu sens que ça vous a créé une relation particulière, ça vous a rapproché ou pas plus que ça?
Non, pas plus que ça, parce qu'on a il a un tempérament, il a un caractère, il n'est pas très expressif, mais je sais qu'il faisait ça parce qu'il aimait ça, il aimait aussi passer du moment avec moi, et puis il aimait me voir sur un terrain de tennis, et puis aussi à l'époque c'était plus simple, moi j'étais très calme, quoi. J'étais comparé de l'âge, quand je compare avec le fils que j'ai maintenant, moi, qui a 13 ans, qui est très caractériel, qui n'accepte pas trop de perdre des points, et quand je l'amène sur les tournois, il ne veut pas que je le regarde jouer. Il veut pas. Il y a plein de choses qui refusent. Et donc, c'est plus compliqué de l'amener sur les tournois. Alors qu'avec mon père, ça se passait très bien, quoi. Et j'étais là, je m'amusais, je prenais plaisir à être sur un terrain. Et je pense qu'il est même voir comme ça.
Et du coup, avec tes enfants, tu es interdit de cours?
Avec mon fils. Avec mon fils, je suis interdit de regarder ses matchs, ce qui m'embête un petit peu. J'essaie de lui faire comprendre un peu... parce que souvent, quand on parle de mon fils, on parle de moi, comment j'étais, en fait, sur le circuit. On parle du plus ou moins du circuit. Parce qu'on me dit, les chiens ne font pas les chats, mais je leur dis, moi, à son âge, j'étais très calme, quoi. J'étais gentil. Alors qu'avec le temps, quand je suis parti sur le circuit, où là, t'as plus d'enjeux, tu joues un peu ta vie sur chaque tournoi, parce que c'est ton métier, quoi. C'est ce qui te rapporte de l'argent. Et donc forcément, il y a plus de pression. Et là, forcément, j'étais plus, j'étais caractériel, j'étais, je veux dire, méchant. Non, pas méchant, mais j'avais un sacré tempérament qui n'était pas forcément bien perçu des arbitres. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. J'étais pas non plus odieux. Hein. Et donc j'essaie de faire comprendre à mon fils que là, il joue, ça reste quand même à son âge un sport, un jeu où ils doivent trouver du plaisir. Parce que quand on en rentre dans l'agacement, l'énervement, c'est qu'il n'y a plus une notion de plaisir, c'est ce qui m'embête le plus. Et je pense qu'aussi, c'est le fait de m'avoir vu jouer sur des gros tournois, sur certains tournois, je pense qu'il se met une certaine pression, qu'il a envie aussi, il a envie d'être professionnel, il a envie d'atteindre le haut niveau, et j'essaye de lui enlever un peu cette pression, dire voilà, il y a le temps. Je veux dire, t'es encore jeune, abuse-toi d'abord, progresse, et après, on en reparlera dans quelques années. Donc, ma fille, c'est l'opposé, c'est que elle joue très bien, elle est physique, elle est à droite, elle kiffe, elle se marre, elle perd avec des balles de match, c'est pas grave, elle s'amuse, elle va jouer avec ses copines après, ils sont diamétralement opposés.
Du coup, toi, quand t'es jeune, tu as ta vie un peu d'étudiant classique, tu rêves pas forcément du circuit, quoi?
Du tout, exactement, comme tu l'as dit, c'est que j'ai eu mon bac en Bretagne, je suis monté pour concilier le tennis et les études à l'INSEP, où j'ai pu côtoyer des joueurs en fait, que je connais maintenant depuis qu'ils ont 15-16 ans. S'il y avait Gilles Simon, je servais de sparring à ces joueurs-là. Gilles Simon, Nicolas Mahut, Julien Beneteau, il y avait Joe aussi de son gars. Et je faisais mes études de 8h à 11h et je pouvais jouer avec eux à 11h et après à 16h l'après-midi. Et je n'avais pas du tout cette envie de partir, de voyager. Je n'avais pas cette envie d'être dans les 100 premiers, de jouer les tournois du Grand Chelem. J'avais ma routine, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire mes études, c'est de faire les soirées étudiantes, kiné le jeudi soir, j'en ai des très bons souvenirs. Voilà, faire l'été, faire les tournois sur les côtes bretonnes, sur de Normande. Et j'ai vraiment kiffé kiffé cette période, quoi.
Et tu penses que c'est parce que tu croyais pas en toi, ou c'était quoi ?
Je sais pas si c'est ça, j'avais pas... Non, je suis quelqu'un à la base qui a pas forcément une grosse confiance en lui. Après, non, mais je j'étais pas comme les jeunes maintenant qui sont là, qui ont pour objectif d'être numéro un mondial, voilà. Moi, je voulais attendre, quand je rentrais sur un terrain, par exemple, en tournoi français, j'étais quand même, voilà, je voulais pas perdre. Mais j'avais pas, c'était loin de moi, c'était pas du tout dans mon état d'esprit d'être, de partir sur les... J'étais pas attiré, en fait, de partir, voyager toutes les semaines, j'avais pas cette envie, quoi. Dire que j'avais pas confiance en moi par rapport à ça. Est-ce que au fond de moi, peut-être que j'avais peut-être peur de l'échec, peur de pas y arriver, peut-être. J'ai pas vraiment pensé, mais c'est ouais, c'est peut-être cette peur de partir et de pas réussir, quoi.
Du coup, t'as pas du tout joué les juniors.
J'ai joué les juniors, non. J'ai dû jouer quoi en junior. J'ai dû jouer juste Roland. J'ai fait les qualifs. Je me suis qualifié. J'ai passé un tour et j'ai voilà. Non, j'ai pas du tout joué sur le circuit ITF junior comme tous les jeunes le font maintenant. Ouais.
J'avais deux questions qui venaient. C'était ton meilleur souvenir en junior et une anecdote assez marrante. Est-ce qu'à la place, on peut le remplacer par ton meilleur souvenir en CNGT ou sur le circuit grand tournoi et une anecdote un peu marrante sur ce circuit-là ou sur la côte bretonne.
Ouais, quoi. Non, mais c'est vraiment, je veux dire, c'est pas une histoire en particulier, c'est vraiment l'ambiance qui pouvait régner sur les tournois. C'est peut-être quand je compare avec maintenant, quand j'en fais certains, c'est vrai que comme le tennis en a pris un petit coup, c'est qu'il n'y a plus la même ambiance que quand je jouais, moi, par exemple, il y a une vingtaine d'années où vraiment on passait la journée au club, on faisait les soirées, de temps en temps on pouvait boire un peu excessivement et puis se coucher tard et rejouer et jouer le lendemain. Et c'était vraiment l'état d'esprit, l'ambiance qu'il y avait, c'était vraiment très festif. Et non, on s'éclatait énormément, quoi. Mais j'ai pas une histoire forcément comme ça qui me vient en tête.
Le déclic pour te lancer, c'est quoi à un moment donné? Tu parlais de pas avoir de regrets d'y aller, mais factuellement, ça a été quoi?
Non, mais après, c'est donc ouais, je dis ouais. Donc comme tu as dit, c'est tenter ma chance à 24-25 ans parce que j'avais plein de joueurs qui étaient là, qui me poussaient, qui me disaient allez, vas-y, tente, essaye.
C'est qui les mecs qui poussaient?
J'ai eu, par exemple, le souvenir que j'ai, c'était les frères Rocus, notamment Christophe, quand je jouais les matchs par équipe en première division avec Valenciennes, ils jouaient avec moi. Ils disaient que c'était une connerie, que j'essaye pas de me lancer sur le circuit. Et puis, c'est venu à 20, je sais pas pourquoi c'est venu entre 24 et 25 ans. Et puis, c'est aussi prendre conscience que les joueurs, quand t'es premier, ou même quand t'es 500, 600, 800, je parle à mon époque, parce que je trouve que maintenant, le niveau a vachement augmenté. Et les joueurs, c'est beaucoup plus homogène, c'est beaucoup plus dur d'y arriver, je trouve. Et en fait, à mon époque, quand tu étais peut-être 600, 800, et que tu jouais un mec dans les 100, c'était pas un monstre non plus. Ça jouait bien. Et moi, je me rappelle, j'avais joué un tournoi français, j'avais joué Stéphane Huette, qui était première série. Moi, j'étais peut-être moins 4, et je me faisais toute une montagne de ce joueur, de son classement. Et puis, finalement, voilà, je rentrais sur le terrain pour faire un score. Je perds 3 et 4. Et puis je me suis dit, mais c'est cool parce que putain, il y a peut-être quelque chose à faire. Pas forcément gagner, mais je pouvais plus l'embêter. Et c'est un peu pareil après, quand tu es dans son circuit. Après, il y a du travail, il y a du boulot, il y a de la patience. Voilà, tu joues bien derrière, tu retombes dans tes travers, tu chutes au classement. Il y a une remise en question permanente. Et puis, il y a eu un déclic. C'est aussi, c'est quand je. Bah, notamment, comme tu as parlé, c'est sur mon palmarès, c'est le tournoi de Grenoble. Où j'ai enchaîné des bonnes victoires, de très bonnes victoires sur des très bons joueurs, sans forcément jouer un tennis incroyable, en jouant très bien, en jouant juste, et se dire, bah voilà, les mecs jouent bien, mais bon, moi aussi, je joue bien, je peux y arriver aussi, quoi, comme eux, quoi. Et c'est juste une question aussi d'être régulier sur toute une saison. Et j'ai enchaîné, en fait, après ce tournoi de Grenoble, j'ai enchaîné par le tournoi de Lyon, où je fais qualifier quart, où je bats Ferrer, qui était dans les 20 premiers. Je gagne 4 et 0, je bats de Sanguinetti qui était 40e. Où là, tu te dis, bah ouais, là, le niveau tennistique, il est là. Après, à moi d'être plus fort aussi, bah, de faire des progrès un peu partout, physiquement, mentalement. Aussi, il y a des progrès à faire tennistiquement. C'est pas inaccessible, en fait.
Tu me parles de Grenoble. Est-ce que c'est le moment où tu sens que tu es en train d'exploser? En fait, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton regard sur la manière dont tu as traversé un peu cette jungle des futurs et des challengers. Ouais. Pour arriver au circuit principal, quoi.
Ouais, en fait, j'ai commencé donc assez tard, mais j'ai eu une progression assez constante. j'ai pas vraiment eu des stades, des moments où j'ai stagné très longtemps, où tu te poses des questions, tu dis putain, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, est-ce que je vais y arriver. Puis moi, en commençant entre 24 et 25 ans, j'allais dire, j'avais pas trop de temps à perdre non plus. Mais j'ai eu un moment de doute, hein, je sais plus en quelle année, j'avais joué le futur de Toulon, j'avais perdu sur un Argentin, c'était Marcaccio, je me souviens, et j'avais fait un très mauvais match, et puis voilà, pas forcément une grosse période tennistique où je gagnais forcément beaucoup, et puis là, je me suis mis dans un coin et limite à pleurer, dire mais putain, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Tu vois, j'avais beaucoup de doutes en moi, et puis après, faut savoir rebondir, et puis. Puis je suis reparti, j'ai joué moi, j'ai eu la particularité de jouer beaucoup de futurs, de challengers en France. J'ai très peu voyagé, ou quand je voyageais, c'était vraiment dans des plutôt bonnes conditions. Ça a été le Portugal, l'Italie, l'Espagne, au pire, on va dire la Roumanie. J'ai pas fait des pays vraiment, tu sais, le Kazakhstan ou d'autres pays comme ça où tu galères, où tu as des très mauvaises conditions, parce qu'il faut savoir qu'en France, les futurs ou tous les tournois organisés, les joueurs évoluent dans de très bonnes conditions. Et donc après, j'ai fait régulièrement des finales, des demi, et je suis monté rapidement 400e, 250e. Et après, je suis arrivé à... Moi, j'ai eu une petite blessure aussi à Andrézieux Boutéon, qui m'a éloigné des cours pendant 4 mois. Donc, j'ai stagné un petit peu, mais dû à cette blessure. Et après, je suis bien reparti. Et après, quand je suis arrivé au Challenger de Grenoble, je crois que j'étais aux alentours de la 100... J'étais peut-être dans les 150 ou un truc comme ça. Et puis ce tournoi-là, cette période-là, qui m'a fait passer un cap, quoi. Comme j'ai dit, en battant plein de bons joueurs d'affilée comme ça, dire voilà, j'ai le niveau et vas-y, je vais rien lâcher, je vais continuer comme ça. Et puis ça s'est confirmé derrière sur le Grand Prix de Lyon. Ça, c'est donc chez Grenoble, si je ne me trompe pas, c'est en 2005. C'est 2005, et je fais quasiment ma meilleure année 2006 où je rentre dans les 100 en passant mon premier tour à Roland. Je finis après Roland, je finis 99. Et derrière, je finis l'année 50e en faisant finale à Lyon.
Au moment où tu te lances sur les challs et les futurs, ouais. Tu as ton diplôme de préparateur, enfin de éventuellement.
J'ai pas fini mes études. Non, parce que j'ai pas bossé suffisamment. J'ai une licence TAPS et le CAPEB, j'ai pas bossé comme il fallait pour l'avoir, quoi. Il aurait fallu que je mette la raquette de côté, que je me consacre uniquement à mes études, et j'avais pas forcément l'envie, la motivation pour laisser la raquette de côté. J'ai passé, quand j'avais 20 ans, j'ai passé mon... À l'époque, c'était le BE. Et maintenant, c'est le DE. Je me suis dit, ouais. Pourquoi pas le passer? J'ai du temps, autant le faire. Ce sera ça d'acquis. Donc, voilà.
Et tu te fixes une deadline quand tu te lances, ou tu te dis, advienne que pourra?
Je ne me suis pas fixé de deadline, puisque j'ai eu cette chance, comme j'ai dit, d'avoir une progression assez constante. Après, si à un moment donné, je suis resté 800 ou 700 pendant 2, 3, pendant un, ou peut-être où je finis l'année 800, je ne monte pas vraiment de manière significative, là, je me serais posé des bonnes questions. Et je pense qu'aussi, j'ai mon entourage avec mes parents qui ont été souvent derrière moi. Et puis en tant qu'enseignant, la priorité à la base, c'était les études. C'est pour ça que j'ai commencé aussi tard aussi. Et ils ne m'ont pas forcé. Je dirais, ils m'auraient remis aussi les pieds sur terre, quoi. Ma progression constante a fait que j'ai pas eu de remise en question. Je me suis dit, arrête, quoi. Au coin de ma tête, j'avais peut-être des objectifs en me disant, voilà, bon, tu commences. Si dans 4 ans, t'es 500 ou 600, dans 3 ans, t'es 500 ou 600, faut peut-être arrêter le circuit ATP.
Ton meilleur souvenir, du coup, sur le circuit secondaire, ça reste lequel?
J'ai été des victoires chez moi, à Saint-Brieuc, où j'ai gagné le... Il y a eu un futur. D'abord, ils ont commencé par un futur, et ensuite ils sont montés à la catégorie challenger. J'ai eu la chance de gagner les deux, et donc gagner chez soi, parce que le tournoi a été mis en place vraiment pour moi, quoi. C'était le président à l'époque, c'était Patrick Lebacquer, et c'est lui qui a mis ces épreuves là dans ce club là pour m'aider sur le circuit. Et j'ai eu cette chance de pouvoir le gagner, donc devant mes parents, devant mes amis, ma famille. Et après, ça a été aussi ma première victoire aussi. Après, c'était un peu anecdotique. C'est sur un challenger, c'était à Timișoara en Roumanie. Je ne sais plus l'année, et j'ai gagné. J'étais tout seul là-bas. À la fin, je veux dire, on a commencé la finale le dimanche. Il a plu, je mène un 7-2-0. Et c'est reporté le lendemain à 10h et je gagne 3-0 sur l'Autrichien Oliver Marach. Et, ouais. C'était bizarre parce que j'étais super content. T'es fini, je gagne le trophée, il n'y a personne. C'est dans ta chambre d'hôtel, il n'y a personne. C'était un peu glauque, mais au fond de moi, j'étais super heureux. Quoi.
Et c'est marrant, c'est un peu comme Julien Varlet me raconte qu'un de ses meilleurs moments, c'était quand il était tout seul à Milan, à gagner deux matchs d'affilée, sans public, sans rien. Et au final, des bonheurs que tu ne peux pas forcément partager, mais une espèce de conséquence. Ton tout premier point ATP, tu t'en souviens, et ça t'a fait quoi?
Ben après, ça a été comme je dis, il y avait un circuit satellite dont une étape était à Saint-Brieuc. Et ben après, en 99, j'ai dû prendre mon premier point. Mais après, c'était passager, parce que l'année d'après, je ne jouais pas forcément de tournoi ATP. Après, mon premier point sur un futur, à partir de 2001, je ne sais même pas où c'était, il faudrait que je regarde, je ne sais pas. Non, mais toujours content parce qu'à l'époque, c'était. Moi, ce que j'ai en tête, c'était. Tu prends ton premier point, tu es dans le classement ATP dans Tennis Magazine. Tu as ton nom dans Tennis Magazine. Dès que tu avais un point, tu avais ton nom dedans. Donc, c'était ça qui me faisait kiffer. Quoi. Puis, regarder chaque semaine, si tu prenais des points, hop, peut-être ton nom progressait dans la liste. Quoi.
Putain, mais c'est énorme. J'avais totalement oublié que je mettais le classement des joueurs dans Tennis Magazine. Dans les dernières pages, ouais. C'est génial. Comme tu n'avais pas forcément de rêve en tant qu'enfant dans le tennis, à quel moment tu t'es surpris à rêver un peu secrètement de grands cours, des grands tournois? À quel moment ça a germé?
C'est quand tu te rapproches des 100, quoi. Tu vois, c'est pour prendre toujours la même période, Grenoble, Lyon, où, je pars en Australie après Grenoble et Lyon, je suis 100, je crois que je suis combien, putain, non, mais je suis pas loin de 110 ou... Et je suis tête de série une dans les qualifs d'Australie. Et c'est là où tu arrives sur les. C'était dans les vestiaires. Tu vois les grands champions, les Federer, tous les meilleurs joueurs. Et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien les jouer sur les grands cours. Je pense que l'objectif de chaque joueur qui se lance sur le circuit, c'est de rentrer dans les 100 premiers pour justement jouer les tournois du Grand Chelem et puis jouer sur les grands cours. Si tu joues sur un grand cours, ça veut dire que tu joues les 20 premiers meilleurs joueurs du monde ou le top 10. Donc c'est quand tu commences à te retrouver sur le même circuit qu'eux, après dans la catégorie en dessous, parce que au départ tu es en qualif, tu te dis putain, pourquoi pas moi quoi, pourquoi pas me retrouver là sur un central, un match télévisé contre un Nadal, un Federer, ça part de là quoi. Et puis après hop, tu arrives à Roland en 2006 où j'ai je crois que j'ai Wildcard Tableau et je bats 10 Mauro et je sais qu'avec cette victoire, boum, je rentre dans les 100. Et puis après, j'ai eu la chance de jouer Federer sur le Armstrong de l'US, le central de Wimbledon, le grand central d'Indian Wells. Donc j'ai joué quasiment tous les meilleurs joueurs. À l'exception de, j'ai joué Nadal mais en double, j'ai joué Djokovic, il a été 30e, j'ai joué Murray, j'ai joué Roddy, j'ai joué Davidenko, Nalbandian, j'ai joué plein de grands champions et j'ai kiffé quoi, j'ai kiffé de les jouer, je les ai inquiétés certains, il y en a d'autres que j'ai battus, j'ai plus souvent perdu malheureusement, mais c'est comme ça, ils étaient meilleurs que moi quoi.
T'es hyper pragmatique n'empêche, parce que avant d'être 100e, tu te projettes pas plus que ça, avant d'être à Roland, tu rêves pas plus que ça, et une fois que tu es...
Je me promets, je suis peut-être un peu dur, c'est à partir du moment où tu rentres dans les 250.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est là où ça commence quand même. C'est peut-être quand je dis Grenoble, tout ça, parce que dans les 250, tu commences à jouer les qualifs de Grand Chelem. Donc c'est là où tu croises le chemin et le chemin où les entraînements des grands champions et je crois que j'ai une année je me suis qualifié à Roland où forcément première qualif dans un tournoi du Grand Chelem t'es comme un dingue quoi t'es comme un lynx. C'est l'un des, ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs de voilà, surtout se qualifier à la maison. Comme j'ai dit, c'est jouer quand t'es français et que tu joues bien et tu joues bien en France, que ce soit sur les ATP 250, 500, 1000 ou les grands chelems, encore mieux sur les grands chelems, c'est un réel bonheur. Tout le monde est derrière toi, t'as envie de bien faire. Après, ça double tranchant. Tu vois, c'est une gestion de la pression, quoi. T'es là, t'as envie de bien faire, mais putain, faut pas que t'arrives trop tendu. Faut que tu te serves du public, faut que tu te serves de tout ça pour essayer de te sublimer sur le terrain. Et je me sers de cette expérience-là aussi pour, tu vois, comme j'entraîne, je suis avec Nicolas Copin, on est en train de Greg Barrère. Quand il a joué Roland là, l'année dernière, il y a 2 ans, c'était lui dire, voilà, Greg, putain, tu joues à Roland, c'est un kiff, serre-toi du public, quoi. Serre le point, chauffe-le un petit peu, ils attendent que ça, quoi. Ils attendent que ça. Parce qu'en plus, lui, bon, je dérive un peu là-dessus, mais lui, c'est un joueur qui est assez introverti, qui ne s'exprime pas trop sur le terrain, et on a envie de le pousser un peu plus là, dans cette direction, et il l'a fait. Il l'a fait. C'est un peu contre nature, mais tout doucement, et il le fait davantage. Ouais.
C'est quoi, tu dis que peut-être le meilleur souvenir, c'est quand tu te qualifies à Roland. C'est quoi tes images, tes sensations de l'époque, quand tu découvres un peu avec tes yeux émerveillés?
Pour moi, c'est tout con, hein. C'est une image tout con, c'est que je m'étais fixé de dire, voilà, si je me qualifie à Roland, je m'achète un plasma, un écran plasma. À l'époque, c'était, j'avais 26, 27, tu vois, c'était il y a plus de 15 ans. Tu vois, si on en parle maintenant, on dit, mais c'est ridicule, quoi. Mais après, moi, c'était ça. J'avais pas forcément un plasma ou un petit chez moi, et c'était ça. Dès que je me suis qualifié, c'était ça. J'avais la banane, j'avais le sourire, c'était dire, voilà, je rentre dans le grand tableau, je vais me faire un petit kiff, je vais m'acheter une télévision, si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout bête, mais c'était par rapport à l'époque à laquelle j'évoluais aussi. Parce que maintenant, tu te qualifies, limite, tu peux t'acheter une voiture, donc ça a changé, ça a bien évolué.
Même une belle voiture. À partir de quel moment les mecs dans le vestiaire, leur regard change sur toi en te considérant de plus en plus comme un client, quoi?
Bah, quand tu commences à gagner des matchs, quoi. Moi, ils te connaissent pas. En plus, moi, je suis arrivé, j'arrive dans les sens, j'ai 29 ans. En fait, il sort d'où, c'est qui? Et puis, quand il voit que tu gagnes quelques matchs, tu bats certains bons joueurs. Et là, je pense que inconsciemment, il te surveille un peu plus, il se méfie plus de toi. En fait, moi, je suis arrivé à l'époque dans les sens avec Gilles Simon, qui avait en plus un physique assez, je dirais, atypique, façon de parler. C'est qu'il était tout fin. Tu le prends maintenant, mais à l'âge de 20 ans, 21 ans, le bar de développé couché, il soulevait la barre à vide, pour te dire. Et c'est que le mec le prenait pour un gamin, quoi, se dire, voilà. Et puis quand il les battait, je me rappelle de Verdasco, toi, je dérive encore un peu, mais bon, c'est je vais Verdasco, il le bat, et Verdasco, il dit, mais putain, moi, je le joue 10 fois, lui, je perds qu'une fois, quoi. Et il ne se rendait pas compte qu'il était pénible à jouer. Et puis c'est quand tu commences à les embêter, à battre certains mecs, bah là, il y a le regard change, et puis ton classement il monte, t'arrives 50, t'arrives 40, tu passes régulièrement des tournois dans les grands chelems. Donc là, les mecs se méfient de toi. C'est tu profites de ton arrivée, l'effet de surprise un peu, dire voilà, les mecs me connaissent pas, donc se méfient pas forcément de moi. Et puis c'est là où tu bats plusieurs mecs, plusieurs bons mecs, et tu fais des bons résultats.
Ça te faisait quoi d'avoir cette image un peu, pas de vieux, mais de mecs, ouais, qui arrivent de nulle part?
Ça me faisait marrer, quoi. Puis moi, la pression, je ne me la mettais pas, dans la mesure où tu sais, tu arrives à 29, 30, 31, 32 et que tu joues des gamins de 20 ans, 21 ans. Je pense que la pression, elle est plus sur leurs épaules que sur les miennes. Je dis, moi, je suis plus sur la fin, même si j'ai commencé tard, sur la fin que eux. Et que tu vas perdre, ils vont, moi, battre un gamin de 20 ans, 21 ans, ça me fait kiffer. Et eux, dire, putain, je perçois un grand-père, façon de parler, putain, ça fait chier, quoi. Donc, et puis, j'ai eu la chance aussi de. Tu vois, d'être à l'époque des Joe, des Gilles, des Richard et tout ça. Et j'étais en fait un second couteau. Et donc, les médias, tout ça, ne parlaient essentiellement d'eux. Sauf c'est quand je faisais certains coups à Lyon ou à l'US, tout ça. Mais j'étais assez épargné, assez à l'écart avec le côté médiatique. Donc, la pression, ouais. J'en avais pas des masses. Donc, c'était un avantage, c'était un plus.
C'était comme Bazinski, toi, la pression, tu la buvais, non?
Un petit peu. Peut-être pas autant que certains, mais ouais, faut profiter.
Et tu penses que tu avais de meilleurs schémas de par ta maturité que des gars de 20 ans?
Schéma, j'avais des armes que certains n'avaient pas forcément comme j'ai une palette. Je veux dire, voilà, je sais que j'étais physique, je pouvais jouer longtemps. Et je courais longtemps et j'étais rapide. Après, je pouvais m'appuyer sur un service, un coup droit. Si tu entends, tennistiquement, je me sentais pas forcément bien, mais je sais que j'avais ce côté physique qui faisait que bah, je me dis, voilà, je vais courir, je vais gagner des matchs. Tu vois. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait aussi cette fraîcheur mentale. Voilà, le fait de rentrer tard, d'arriver tard sur le circuit, j'ai plus de fraîcheur que des joueurs qui sont là depuis l'âge de 17, 18, 19 ans, qui ont écumé énormément de pays, qui ont voyagé à l'autre bout du monde, voilà, il y a les décalages horaires, les voyages, les entraînements. Moi, j'arrive sur le tard, donc j'ai toute cette fraîcheur physique et mentale qui m'ont aidé sur le début de ma carrière, on va dire dans les 100 premiers mondiaux.
Tu disais que une de tes armes, justement, ouais, c'était le physique. Qu'est-ce que tu as changé du coup pour pleinement l'exploiter entre la partie première série, circuit secondaire et vraiment ta carrière dans le top 100? Comment tu l'as fait évoluer?
J'ai pas changé grand-chose, franchement. Je pense que naturellement, j'ai des bases physiques qui sont très bonnes. Parce que je me rappelle que voilà, j'allais pas sous les barres de squat, sous la presse et tout. J'aimais pas tout ce qui était effort des jambes. J'aimais pas soulever au niveau des cannes. J'étais plus basé. J'aimais beaucoup l'effort du haut. Et j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup. Quand déjà je jouais les tournois français, je jouais énormément. Et j'aimais, au début, j'aimais pas forcément beaucoup m'entraîner. Mais bon, après, comme tout le monde, il y a la période foncière où voilà, faut pas la rater. Mais c'était vraiment enchaîner les matchs. Le physique, je le faisais sur le terrain, quoi. Je le faisais. Et puis j'étais. Et mine de rien, ça m'a aidé aussi quand j'ai fait STAPS. Parce que voilà, on goûtait à beaucoup de sports différents, la natation, la lutte, l'athlétisme, les différents sports co, on touchait vraiment à tous les sports. Et je pense que ça m'a aidé dans ma carrière aussi. Mais j'ai pas tout remis en question. Je me suis pas dit, voilà, j'arrive dans les 100, moi, ça y est, je change tout. Non, j'avais une base physique qui était très bonne. Donc, j'avais pas à tout remettre en question, quoi. J'avais, voilà, forcément, par rapport au début, quand je jouais les futurs, je faisais pas toute cette période foncière en novembre-décembre. Après, je l'ai poussé un tout petit peu plus, mais j'ai pas tout changé radicalement.
Le coup de ton jeu ou la partie de ton jeu que tu as le plus fait évoluer pendant ta carrière?
Putain, ça va peut-être faire rire certaines personnes, mais j'irais, il y a le côté mental, quoi. Mais c'est ce qui me faisait aussi perdre des matchs. Et c'est ce qui m'a fait réussir aussi, quoi. C'est sûr que voilà, j'avais une réputation que j'assume complètement. Certains disaient que j'étais un pleureur, mais moi, je mettais plus dans la catégorie des râleurs. Et je pouvais de temps en temps péter les plombs, c'est sûr. Mais sur toute ma carrière, je n'ai pas disjoncté tant que ça. Et c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de matchs, le fait d'être hargneux sur le terrain, d'être combatif, d'être matcheur. C'est ce qui m'a fait, gagner beaucoup de matchs. Et ça m'a fait perdre certains matchs, mais je pense que le ratio est beaucoup plus positif que négatif, quoi. Parce que voilà, est-ce que j'ai fait évoluer mon coup droit? Je ne suis pas sûr. Mon revers, j'aurais pu le faire progresser davantage. Ça m'aurait fait peut-être gagner quelques places, on va dire. Le service par rapport à ma taille, j'ai pas un grand gabarit, je servais plutôt pas mal. Et peut-être, j'aurais peut-être aussi dû faire évoluer plus mon jeu vers l'avant.
Et ton coup le plus naturel, ça reste quoi?
Ça reste le coup droit. Ouais. C'est pas le revers, ça, c'est sûr. Pas le revers, parce que putain, quand je vois, bah, je vais prendre Greg Barrère, qui a un revers pour moi de dingue, et je comprends pas comment on peut frapper aussi fort, aussi naturellement. Parce que t'entends, je pense à raquette, je me dis, bah, ça vient peut-être de la raquette. Et en fait, non, je me rends compte que non, c'est techniquement. Et puis là, c'est drôle avec le recul, tu vois, quand t'arrêtes de jouer, tu coaches, tu joues avec les mecs, t'as plus de pression. Et putain, je frappe mieux en revers maintenant que quand je jouais sur le circuit, quoi. Parce que bon, après, il y a, comme j'ai dit, voilà, t'as ce détachement, t'as plus rien à perdre. Et puis tu comprends des choses, quoi, que t'essayes de transmettre à ceux que t'entraînes. Et puis bah, tu dis, ouais, putain, mais j'y arrive aussi, quoi.
Tu parlais du mental, concrètement, tu avais un préparateur ou tu faisais comment pour
Non, j'ai pas eu de préparateur. J'ai essayé et j'ai bossé, façon de parler, hein. J'ai eu 2-3 séances avec un préparateur mental et j'ai pas du tout accroché. J'avais une attente complètement différente de son approche à lui. Tu vois, moi, j'étais plus basé sur en fait, quand quelque chose ne va pas, il y a une situation qui... Une situation négative, il me dit voilà, moi j'attendais à ce que la personne m'apporte des solutions, me propose des choses et que moi je pioche à droite, à gauche, j'essaye. Ça, ça pourquoi pas, ça je mets de côté. Et lui, en fait, c'était plus, il travaillait plus de cette façon-là, en fait, dire voilà, tu arrives là, dans cette situation-là, ça va pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, c'était à moi de chercher. Et moi, j'attendais à plus, comme j'ai dit, qu'il m'apporte différentes solutions et que j'essaye de piocher à droite, à gauche, quoi. Et puis après, j'ai essayé de prendre beaucoup sur moi, quoi. Puis je parlais beaucoup avec mes entraîneurs. C'est parce que quand on entraîne aussi, après, je vais pas dire que c'est notre, ça fait partie un peu de notre métier, mais on agit un peu aussi en, on est un peu psychologue aussi. Après, mais je veux pas déborder sur le, je veux pas prendre leur place non plus. Hein. Mais de temps en temps, on est obligé, on parle, on rassure, on se sert aussi de nos expériences. Et j'ai pu faire ça aussi avec mes entraîneurs, quoi. Voilà. Et puis il y a des entraîneurs qui m'ont mis en place régulièrement, voilà, qui m'ont rentré dans la gueule, dans la gueule, parce que voilà, j'étais excessif, j'étais un peu de temps en temps caractériel. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu Rodolphe Gilbert, Thierry Assion, voilà, qui de temps en temps, voilà, je me rappelle, je commençais à ouvrir ma gueule, et puis là, il était sur le bord du terrain, il me dit maintenant tu fermes ta gueule, quoi. Et puis hop, il me remettait dedans, quoi. C'était, je sais que l'aspect mental, bah, comme pour tous les joueurs, je pense que ça a un gros impact sur ton tennis, quoi. Je sais que si j'étais bien, si j'étais. Je sais qu'au niveau du tennis, ça allait être mieux.
T'as eu qui d'autre comme coach ?
Quand je suis sur le circuit, on va dire, je suis rentré à la Fédé, j'ai eu Jérôme Potier. J'ai eu aussi qui était en binôme avec Rodolphe Gilbert. Et après, j'ai pris Rodolphe dans le privé. Et ensuite, je suis retourné à la Fédération avec de nouveau Jérôme Potier. Et ensuite, j'ai pris dans le privé Thierry Assion. C'est assez drôle parce que donc Thierry m'a entraîné, j'étais le premier joueur qui l'a entraîné. En fait, il arrêtait, il était sur la fin de sa carrière, je me rappelle, il s'entraîne au CNE. Et moi, je m'entraîne après lui, et puis on discute, et on était potes. Et puis, il me fait, là, tu vas jouer où ? Je dis, je vais jouer à Cherbourg. Il me fait, tu veux que je vienne avec toi ? Et puis, c'est parti de là, je dis, ouais, ok. Et puis, on a commencé comme ça. Et puis, alors, ce qui peut être bizarre, c'est qu'il était plus jeune que moi. Thierry, il doit être de 82. Donc, il a 5 ans de moins que moi. Mais bon, moi, j'ai tout de suite kiffé d'être avec lui, le discours, la façon dont il voyait les choses, l'échange qu'il y avait entre nous, dont il communiquait. J'ai tout de suite accroché, et puis de le voir évoluer, tu sais, avec. Dès qu'il a eu un joueur, moi, il m'a fait remonter dans les sangs, moi, assez tard. Après, j'ai eu des blessures. Mais il a eu John Danier de Vigy qui a été en binôme avec moi, qui s'entraîne avec moi. Il l'a fait monter à son plus haut niveau, à 140e mondial. Après, il a eu Christina, il a fait rentrer dans les sangs. Et puis après, quand je l'ai vu partir avec Joe, moi, j'étais super content pour lui parce que je trouvais qu'il mérite ce qui lui arrivait, quoi.
La fois où un de tes coachs était le plus rentré dedans, c'était quand ?
Ouais, c'est peut-être Thierry. Hein. C'est peut-être Thierry. C'était notamment à Cherbourg quand j'ai perdu sur au deuxième tour, si je me souviens bien, sur Stéphane Bolli, où j'étais pas là, j'étais au niveau du tempérament, tout ça, et il m'a défoncé. Il m'a défoncé après le match, et puis il avait raison. Je veux pas, mais là, j'étais assez lucide sur ce que je faisais. Hein. J'acceptais, voilà, quand on me disait que tu fais de la merde, ouais. Après, si j'étais pas là, la plupart du temps, j'étais d'accord. Hein. C'est-à-dire, j'étais souvent encadré par des entraîneurs qui, je les ai respectés beaucoup par rapport à leur carrière, par rapport à leur discours, par rapport à tout ça. Je trouvais qu'ils avaient une grosse connaissance du tennis. Je me dis, de toute façon, il est là. J'avais le recul pour me dire aussi, il est là, il me défonce. Il est là pour moi, quoi. Dire, voilà, je préfère qu'il me défonce parce que voilà, il a envie que je progresse que faire le toutou, rien me dire et que en fait j'avance plus, quoi, j'avance pas. Voilà, s'il le faisait, c'était pour mon bien, c'était pour que j'ai puisse progresser, évoluer.
Le meilleur conseil, tu penses, qu'un de tes coachs t'ait donné ?
Putain, j'en sais rien, quoi. C'est ce que je peux dire ou ce qu'on a pu certainement me dire, c'est voilà, tu rentres sur le terrain, tu te déchires, quoi. Là, tu te déchires, tu joues bien, pas bien, mais tu te déchires. Tu essayes de faire le max, quoi. Tu sors du terrain, voilà, tu dis, j'ai tout donné, c'est passé, tant mieux, c'est pas passé. C'est que l'autre a été meilleur que moi ce jour-là. Et puis derrière, allez, c'est reparti, on bosse et on essaye de gagner des matchs la semaine d'après, quoi.
Quelle a été ta pire galère sur un tournoi ?
Ma pire galère sur un tournoi ? Mais comme je t'ai dit, j'ai souvent évolué dans des très bonnes conditions. Donc, tu vois, j'ai pas forcément galéré. Souvent, je choisissais les tournois, comme je t'ai dit, en France ou pas très loin, parce que j'avais pas envie de prendre un avion, deux trains, un bus, un car. Donc j'ai pas vraiment galéré quoi sur les ma pire galère sur les tournois, qu'est-ce que ça aurait pu être? Putain non, j'en ai pas. Si y en a une qui me revient en tête, je te le dirai, mais là je n'ai pas de qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, Portugal, Italie, Espagne. C'est quoi, j'ai fait Roumanie, tu vois, au pire.
Espèce d'indigestion, de maboule, un truc improbable.
Non, j'ai pas. Tu vois, j'étais au Maroc, on m'avait dit, tu vois, pas au Maroc, mange pas de salade, mange pas oulaf tout, faut vraiment, tu vois, faire attention. Mais j'ai pas eu de. Après, c'est pas une pire galère, mais je fais le tournoi de Moscou, c'était le 250, pour, tu vois, donc on était bien lotis. Et c'est que je change mon billet d'avion pour le lendemain matin parce que j'avais perdu. Et je dis, voilà, j'ai mon vol à tel aéroport, hop, on m'amène. Et putain, il y avait deux aéroports et je me retrouve dans le mauvais. Tu sais, j'arrive dans le terminal et putain, je cherche le vol pour Paris. Et je regarde sur le tableau, je le vois pas. J'en vois aucun pour Paris. Et puis je demande, est-ce qu'on est bien à tel aéroport? Et on me dit non. Et puis l'autre aéroport était à une heure. Tu vois, c'est une galère en soi, mais qui n'est pas. Ça va quoi, tu sais pas. J'ai dû rechanger mon billet, puis je suis parti quoi, je suis rentré. Mais j'ai pas eu de. C'est pas drôle ça, j'ai pas d'histoire comme certains qui vont galérer dans des tournois pour. Putain, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ouais.
Ton tournoi préféré en dehors de la France?
Ça va être l'US Open à New York. Parce que j'ai le côté voilà, où j'ai bien joué, puis j'aime bien aussi toute l'ambiance, l'atmosphère qui peut régner sur ce tournoi, le côté électrique, le côté. C'est le côté chaud à l'américaine, tu vois, ils adorent ça. Et puis la ville, et les à côté, tu vois, t'es là, tu sors, ou tu te balades dans la journée, t'as Central Park, ou tu vas à Times Square, c'est des lumières de partout, c'est ce côté-là, j'aimais beaucoup. Alors, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent l'Australie, qui est un peu diamétralement opposé, c'est plus relax, plus cool, que j'aime un peu moins bien, peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque où j'étais joueur, j'aimais vraiment moins bien. Après, je vais dire, il y a peut-être, tu dis hors France, mais tu sais, si je parle de Roland, tu vois, c'était un peu paradoxal parce que tu es content de jouer en France parce que tu as tous tes amis, tu as ta famille qui viennent, mais tu as le côté aussi, tu es sollicité, il y a beaucoup de monde, tu as la pression, donc tu vois, c'est un kiff qui est différent, mais quand tu joues bien et tu gagnes, c'est gros kiff, ça, c'est sympa.
Et un resto ou deux à recommander à New York, un truc, une adresse
C'était à New York, c'est, je pense qu'on va dire souvent le même, c'est à l'époque où je jouais, c'était le Tout va bien.
Ouais.
Et maintenant, c'est le Baratin, voilà, de Mike Touchard. Donc. Ça fait un moment que je suis pas allé à New York, mais je sais que tous les coachs, les joueurs français s'y retrouvent régulièrement. On mange très bien, on est très très bien accueillis. Le Baratin.
Ton plus gros pétage de plomb sur un court?
Waouh, j'en ai eu plusieurs. Après moi, c'est souvent je pouvais prendre la partie quelqu'un du public quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir du terrain et d'attendre que la personne sorte des tribunes et. Et après, c'était beaucoup de paroles. Hein. Je passais pas aux actes, j'allais pas aller me foutre sur la gueule avec le mec. Hein. Mais j'ai eu ça à Washington, j'ai eu ça à Barcelone.
Le mec, et tu lui.
Ouais, j'attendais qu'il sorte. Et puis, t'avais un superviseur qui venait, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah quoi, j'ai pas le droit. Il me dit, mais c'est pas très habituel qu'on attende quelqu'un qui sorte des tribunes. Et j'ai eu à Barcelone où je suis tombé sur trois mecs qui étaient très chauds. Et j'étais très énervé, mais après, je faisais pas. Tant que ça le malin, je me rappelle, il y a eu c'était Guillaume Père, un entraîneur qui m'avait attrapé, qui m'avait ceinturé pour pas que j'y aille. Et les mecs étaient très chauds. Après pétage de plomb, je savais aussi déjà pas dépasser les limites sur le terrain. En fait, tu vois, j'avais ce côté un peu, c'était un peu fourbe, mais j'allais pas insulter l'arbitre parce que je voulais pas aller jusqu'aux amendes. Tu vois, je savais me freiner. Comme je dis, j'étais un râleur quoi. J'allais pleurer beaucoup, j'allais râler auprès de l'arbitre, j'allais faire un peu de cinéma, tu vois. Mais j'avais besoin d'extérioriser un peu les choses, de pas garder toutes les choses en moi parce que sinon après je peux plus jouer. Et je sais que voilà, je faisais chier certains joueurs, mais c'était pas l'objectif de faire chier le joueur.
Et t'as jamais pris d'amende du coup?
Si, j'en ai pris. Je me suis disqualifié une fois. C'était sur un futur à Mulhouse. Après, je méritais pas forcément sur ce match de me faire disqualifier, mais je vais te dire après, quand tu es un peu lucide sur l'ensemble de mon œuvre, c'est pas démérité que je me sois fait disqualifier une fois. Quoi. Donc, mais oui, j'ai pris quelques amendes. Après, la plus grosse, ça a été à Roland. J'ai dû prendre 3000. 3000 ouais. Sur, grâce à, au journal d'équipe, on va dire, parce qu'en fait, j'ai tenu des propos sur un terrain et j'ai fini le match, si tu veux. Après, ce n'était pas forcément bien ce que j'ai dit. Hein. J'ai fini le match, j'ai perdu et puis, en fait, il y avait un journaliste qui était là. Je n'ai pas pris d'avertissement pendant le match et il a un grand... il y a eu un petit encart sur mon match de dizaines de lignes. Et puis, en titre, il y avait les propos que j'avais dit. Et puis, il faut savoir que voilà, tous les tournois ils vont lire la presse. Et ils ont eu donc le retour sur mon match par rapport à la presse. Et j'ai pris 3000 par rapport à ce que j'ai pu dire sur le terrain. Quoi.
J'espère que l'équipe t'a offert un abonnement à vie.
Non, mais après, j'ai été les voir, leur dire voilà, c'est pas super cool parce que j'ai joué 3h45. Voilà, je lui dis la chose que tu as écrite, les trois quarts sont fausses. Je veux dire, j'ai dit ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit à la personne que tu as dit dans l'article. Bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon, après, c'est comme j'ai dit, j'étais un joueur avec du tempérament, avec du caractère. Ça plaisait pas. Voilà, j'ai pris quelques amendes, certaines qui ne sont pas méritées, mais j'aurais pu en avoir d'autres que je n'ai pas eues. Donc, voilà, ça faisait partie de ce que j'étais sur le terrain, quoi. Parce que sur le terrain et en dehors du terrain, j'étais deux personnes différentes, on va dire.
Si tu devais coacher ton toi de l'époque, tu lui dirais de se calmer un peu ou au contraire de s'exprimer ?
Je lui dirais de fermer un peu plus sa gueule. C'est sûr, ouais, parce que tu vois, quand je coach certains joueurs ou tu vois, où je rentre dans des états de nerfs ou putain, tu vois, je vais pas dire que je me reconnais, mais c'est un petit peu, tu vois, je sais ce qu'ils ressentent et je peux les aider. Après, oui, quand j'étais sur le terrain, dire ouais, parfois je rentre dans l'excès, quoi. Tu sais, il y a le côté, t'es fatigué, et là, boum, tu parles après tous les points, et c'est sûr que j'aurais plus me tempérer de temps en temps, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de ma personnalité, je pouvais en fait gueuler, mais je lâchais pas derrière. Ce que je veux dire, c'est que j'allais pas balancer le set, ou voilà, je râlais, mais le point d'après, s'il fallait jouer un échange de 10, 15, 20 frappes, bah, j'étais là. Tu vois, mais t'en entends peut-être un peu plus me tempérer. Ça m'aurait aidé, mais bon, c'est mon caractère et fait partie de mes forces aussi.
Des superstitions un peu irrationnelles que tu pouvais avoir.
Des superstitions comme un peu tout, je pense. Tu vois, celle qui me revient, c'est quand tu gagnes un match, tu rentres dans les vestiaires, tu vas te doucher, tu prends toujours la même douche. Tu vois, tu essayes de prendre la même douche. Après, c'est toujours une même routine, tu vois, c'était un match à 11h. Moi, je sais que j'avais un match à 11h. J'arrivais, je m'échauffais. J'avais besoin d'une heure avant mon match pour. Tu vois, j'avais besoin de finir mon échauffement, par exemple, à 10h. Pour avoir une heure pour bien me préparer, pour avoir le temps pour ne pas me presser, pas me speeder, quoi. Après, ouais. Des superstitions, de temps en temps, c'était pas marcher sur les lignes sur un terrain. Et j'avais aussi, on m'en parle souvent, c'était quand je jouais, j'essuyais mes mains sur mon cordage.
Exact.
C'est ce qui me. On me chante souvent là-dessus. C'est ce qui ressort souvent.
Et tu cassais un peu plus à cause de ça ou pas ?
Non, du tout. Mais en fait, je le fais au début. Au début, c'est pas. Je le fais vraiment pour essuyer ma main. En fait, quand j'avais ma mouillée, le cordage est sec. Et puis après, au bout d'un moment, c'est devenu un peu un tic. C'est devenu un tic. Et j'ai. Quand t'es arrivé dans les matchs ou sur les fins de set, les moments tendus, et ben, je le faisais de plus en plus. Tu vois, c'était avec la tension, le stress, je le faisais un peu plus, quoi.
C'est quoi ta manière de préparer ton matos au niveau du sac, des grippes, tout ça ?
Ouais, j'étais assez relax, hein, je vais te dire. J'étais pas là à faire corder déjà toutes mes raquettes neuves avant chaque match. J'ai déjà fait un tournoi, je me rappelle, à Saint-Rémy de Provence, où j'ai gagné le tournoi en ne faisant corder qu'en finale. Que j'ai cassé en fait que lors du match de la finale, donc j'ai joué quasiment 4 matchs et demi. Plus, je crois, 3 ou 4 matchs de double. Je partais du principe où je jouais assez à plat, donc je ne cassais pas beaucoup. Et je partais du principe où, voilà, si je gagnais, je jouais bien, je prenais la confiance, même si mon cordage pouvait perdre un peu en tension, je me sentais bien, j'étais en confiance. Donc j'avais des bonnes sensations, donc je continuais comme ça. Après, ouais, faire mes grips neufs avant les matchs, oui. Après, je ne les changeais pas comme Richard tous les 2-3 jeux. Tu vois, j'avais pas de boisson de récup, j'avais pas de trousse, on va dire, médicale, où j'avais. Moi, le but, ce que j'avais avec moi, c'était du doliprane, quoi. J'avais pas d'astrocroche, j'en avais pas besoin, j'avais pas de boisson de récup, j'avais pas de boisson d'effort, d'avant-match, j'avais rien de tout ça. J'aurais pu être beaucoup plus professionnel, tu vois, je m'étirais pas. Tu m'es tiré quasiment pas. Ah non, non, j'ai. Bah, j'ai... Après, ça dépend aussi. J'ai envie de te dire, ça dépend aussi du profil du joueur. Puis, moi, j'étais assez physique. Je récupérais plutôt assez bien, mais je me suis jamais étiré et j'en ai jamais eu le besoin. Comparant, okay. Tu vois, je vais prendre un joueur qui a joué à mon époque, c'était Florent Serra. Lui, bon, après, il avait des soucis avec la hanche. Il avait chaque soir, il avait un protocole d'une heure où il s'étirait. Il avait besoin de ça aussi. Il en avait besoin mentalement, mais physiquement aussi. Et moi, j'avais plus besoin de m'étirer maintenant qu'à l'époque où je jouais.
Merci d'avoir écouté cette première partie avec Marco. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire tout de suite. Tant que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide. Bref, c'est tout bénef. Je vous le dis chaque semaine, mais la survie du podcast en dépend. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts parce que c'est la plateforme où tout se passe. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom. Un grand merci à Aska qui nous dit un podcast incontournable depuis que j'ai découvert ce pod. Je ne peux plus m'en passer. Des épisodes préparés aux petits oignons, des vrais passionnés avec des invités qui ont de superbes histoires à raconter et des questions toujours bien amenées. Bref, si t'aimes le tennis, impossible de tourner les talons. C'est ça qui est bon. Merci Aska. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur cellulaire en bois, avec un peu de chance, coincé dans un ascenseur ou une télécabine. Ils se diront qu'ils ont un peu de temps devant eux. Pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours, grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs Barreau, premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match, dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Phi a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien. Lui aussi dans la description, il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour mieux continuer à te régaler. Enfin, un autre big merci à Grégory qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee, ça fait chaud au cœur. Ce podcast, c'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode, et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Donc merci également aux tipeurs récurrents. Et à Emeric qui nous écrit, que ce soit durant mes sorties vélo du week-end ou mon sport, voire même dans la voiture, je ne manque pas un épisode, émission préparée au top, des questions plus que pertinentes, des anecdotes géniales sur le tennis et des invités passionnants. Bref, au top du top, voilà, adorable, merci encore. Enfin, si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Zada et Moera. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les légendes. Très bon Roland Garros. Encore une fois, merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.